Alors, l'avantage de prêcher le jour de Pâques, c'est qu'on ne doit pas trop réfléchir au thème qu'on va traiter. Comment passer à côté de ce jour de Pâques, de la mort de Jésus, de la résurrection, qui sont vraiment les points centraux de notre foi. Et je me suis interrogé un peu comment est-ce qu'on fêtait Pâques dans le monde, à différents endroits. Alors, il y a des tas de coutumes très, très, très variées. Il y en a une que j'ai trouvée particulièrement sympathique et que je partage à l'écran avec vous. C'est un parterre de fleurs et de sures de bois qui est juste devant l'entrée de l'église. Et vous voyez, là, ils sont en train donc de préparer tout cela, tout ce décor avec des couleurs et tout qui exprime le printemps dont parlait Nasser. Et eh bien, les gens vont entrer dans l'église en passant sur ce tapis de fleurs et c'est toutes ces couleurs qui vont se mettre en mouvement. Cette coutume, c'est au Guatemala qu'on la trouve. Alors, je vous disais, le thème de Pâques s'impose un jour comme aujourd'hui, et comme en 2017, j'avais déjà prêché pour Pâques, et que j'avais choisi de traiter le thème de la résurrection.
Tu fais défiler en bas jusqu'à ce que tu vois Philippe et tu cliques.
Guy, je t'entends. Et donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter un autre thème qui est celui de la scène. Alors, l'image que je vous montre n'est pas du tout représentative de ce qui s'est passé ce jour-là, puisque Jésus et les disciples n'ont pas pris un repas à table, hein, ils étaient allongés, et même si le tableau de Léonard de Vinci est très célèbre, ce n'est pas du tout une représentation fidèle de ce qui s'est passé ce jour-là. Cet épisode de ce qu'on appelle parfois la Sainte Cène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples, il est rapporté dans les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc. Il est à peine évoqué dans l'évangile de Jean, qui préfère insister sur le lavage des pieds des disciples. Mais Paul le relate dans sa première épître aux Corinthiens pour rappeler le sens de la scène et corriger quelques excès et dérives survenus dans cette église. Une première lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 22, vous verrez que l'Esprit a conduit Nasser comme il a conduit Philippe sur les mêmes textes. Deux versets qui nous disent « Le jour de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. » Jésus s'apprête donc à célébrer ce qu'on peut appeler la dernière Pâque juive. Il obéit ainsi au commandement de Dieu qui était rapporté dans Exode 12. Nasser nous en a déjà lu quelques versets. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'un an. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. Vous le mangerez à la hâte. Prêts à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, homme et bête. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. Jésus, comme à son habitude, se soumet au commandement de Dieu et s'apprête donc à célébrer la Pâque selon la coutume juive. Cette fête avait été instituée pour commémorer la délivrance de l'esclavage accordée par Dieu au moment de l'Exode. Nous noterons qu'elle consiste en un repas et que cela commence par le sacrifice d'un agneau dont le sang servira de signe distinctif pour savoir qui sera épargné lors de la dernière plaie où Dieu reprendra tous les premiers-nés des Égyptiens. Ce sang répandu sur les montants et le linteau de la porte était le signe distinctif qui sauvait en cette occasion. La façon dont la Pâque juive était célébrée avait pour but d'aider Israël à se souvenir, mais aussi à se réjouir de la délivrance dont elle avait été l'objet. Et je vous invite à présent à une deuxième lecture, toujours, excusez-moi quand je fais des mouvements de souris, où on nous parle cette fois-ci plus précisément des derniers instants de Jésus avec les disciples. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang qui va être versé pour vous. » Quelques commentaires pour commencer. Le verset 15 nous dit que Jésus, qui sait bien tout ce qui va se passer dans les heures qui viennent, déclare qu'il a vivement désiré partager ce repas avec ses disciples. C'est lui qui est aux commandes, c'est lui qui invite, c'est lui qui offre ce repas à ses amis. Avant de les quitter et avant les terribles épreuves qui vont survenir, il veut les réunir et leur expliquer ce qui va arriver. Il est l'agneau pascal, celui qui donne sa vie et dont le sang sauve, comme le sang des agneaux sauva ceux qui le badigeonnèrent sur les montants et le linteau de leur porte. C'est l'occasion pour lui de dire qu'il donne sa vie. Personne ne la lui prend, comme il donne son sang. Il veut aussi leur annoncer que la séparation qui vient n'est pas la fin de tout. Vous avez noté les termes que j'ai soulignés « jusqu'à ce que » dans le texte. Cette situation ne durera qu'un temps. Il sera présent au milieu d'eux d'une autre façon pendant tout ce temps. Et il veut leur dire que toutes les promesses qu'il leur a faites seront tenues. Vous avez probablement remarqué aussi que Jésus n'oublie pas de rendre grâce pour le pain et pour le vin. La reconnaissance est une dimension importante dans la célébration de la Pâque et donc pour nous dans la célébration de la scène. Lorsqu'ils disent aux disciples « prenez », il ne leur donne pas tellement un ordre, mais plutôt une invitation à se servir. Comme vous le faites lorsque vous tendez le plat à vos invités, servez-vous, c'est pour vous que j'ai préparé ce repas. C'est une preuve d'amour. Et si aujourd'hui nous avons entendu ces paroles bien des fois, quelle dut être la surprise des disciples lorsque Jésus leur dit « Ceci est mon corps », alors qu'il leur présente du pain, et « Buvez-en tous, ceci est mon sang », alors qu'il leur présente une coupe de vin. Ce n'est pas la première fois que Jésus fait cette comparaison. Déjà dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, il se présente comme le pain de vie. Et il déclare « Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » Et les Juifs s'interrogent « Mais comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ?» C'est peut-être le moment de dire que ce chapitre 6 de l'évangile de Jean ne nous parle pas de la Sainte Cène. Ce n'est pas le moment. Simplement, il veut nous dire que Jésus est notre nourriture et qu'il va se donner pour nous. Alors ces paroles ont donné lieu à des interprétations très différentes. Certains les prennent au pied de la lettre. Et dans l'Église catholique romaine, on affirme que le pain et le vin se transforment et deviennent réellement le corps et le sang de Christ. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. Luther, lui, est d'un avis différent. Il pense que le pain et le vin restent du pain et du vin, que de ce point de vue-là, il n'y a pas de transformation, mais que Jésus est présent dans le pain et le vin. Et on appelle ça la consubstantiation. Le réformateur Zwingli, lui, pense que le pain et le vin ne sont que des symboles, des figures de style. Le pain représente le corps de Jésus et le vin figure son sang. Un peu comme si je vous présentais une photographie en vous disant « c'est ma femme ». C'est le point de vue que partagent beaucoup d'églises évangéliques. Christ n'est pas présent corporellement dans le pain et le vin, mais il est bien présent par son esprit lors de la célébration de la scène. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que c'est le sacrifice de Jésus qui sauve. Ce ne sont pas le pain ni le vin qui sont distribués lors de la scène. Ainsi, lorsque nous célébrons la scène, nous ne devrions pas remercier pour le pain et pour le vin, mais remercier pour le don de Jésus et son sacrifice. Allons un peu plus loin et regardons ce que c'est que la scène pour nous aujourd'hui. La scène, c'est d'abord un repas. L'étymologie du mot scène vient du latin cena, qui désigne n'importe quel repas de la journée. La fonction d'un repas, c'est avant tout de nourrir les convives. Jésus a voulu nourrir ses disciples, leur donner de la force. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Lorsque nous célébrons la scène, nous prenons une nourriture spirituelle. La scène, c'est aussi une action de grâce. C'est le sens du mot « Eucharistie ». Jésus a rendu grâce par deux fois au moins lors de la Sainte Cène. C'est un enseignement à ne pas oublier, savoir être reconnaissant pour le pardon totalement immérité de nos fautes et la promesse de la vie éternelle dans la présence de notre Seigneur. La scène, c'est aussi un moment de partage, un moment de communion. Le pain et le vin ne sont pas le signe de l'amitié entre croyants ni de leur appartenance à un groupe, mais ils symbolisent le corps et le sang de Christ. Notre union vient de son sacrifice. Dans 1 Corinthiens, il est écrit « Comme il y a un seul pain, il y a un seul corps ». La scène, c'est aussi l'un des deux sacrements que nous reconnaissons avec le baptême. Alors, je me suis penché un peu sur l'origine de ce terme « sacrement ». À l'origine, un sacrement, c'est en termes juridiques un dépôt de garantie, une caution, lors de la conclusion d'un accord ou la signature d'un contrat. On promettait d'accepter la sentence du juge et de ne pas réclamer la caution si on perdait le procès. Au fil du temps, ce mot a désigné un engagement ferme et solennel, comme le serment d'allégeance d'un soldat à son roi. D'ailleurs, le mot « serment » est une contraction du mot « sacrement ». Pour les premiers chrétiens, un sacrement était un serment d'obéissance à Jésus, et non un signe possédant en lui-même une certaine efficacité comme certains le conçoivent encore aujourd'hui. Pour Calvin, les sacrements sont des signes de la grâce. Ils annoncent la grâce, ils la déclarent, ils scellent une promesse, ils lui donnent plus de force. Si Dieu trouve la foi dans celui qui reçoit le sacrement, alors il lui accorde le bénéfice de la grâce associée. Ce n'est donc pas le sacrement qui apporte quelque chose, mais la foi de celui qui le reçoit. Quelques remarques à présent à propos du pain et du vin. Et là, je vous lirai une première citation de Jean Calvin dans son Institution de la religion chrétienne, où il nous explique en quoi les images du pain et du vin peuvent nous parler. De même que le pain nourrit, soutient et conserve la vie de notre corps, de même, le corps de Jésus-Christ est l'aliment et la nourriture destinés à la conservation de notre vie spirituelle. Je relis, le corps de Jésus-Christ est l'aliment et la nourriture destinés à la conservation de notre vie spirituelle. En voyant le vin nous être offert pour signe de son sang, il nous faut penser à ce que le vin apporte et procure à notre corps, afin de comprendre ce que le sang de Jésus-Christ est aussi bénéfique spirituellement. Il fortifie, il conforte, il recrée, il réjouit. Fin de la citation de Jean Calvin. Et je vous lirai à présent une autre citation, cette fois-ci de Jules-Marcel Nicole dans son Précis de doctrine chrétienne, tout le temps sur l'image du repas. Lorsque nous mangeons et buvons, nous reconnaissons que nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes, que nous avons besoin d'un élément étranger qui pénètre en nous jusqu'au plus profond de notre organisme. C'est ainsi que le pain et le vin peuvent nous donner de la force et nous désaltérer. Fin de la citation. Manger le corps de Christ et boire son sang signifie s'approprier pleinement le sacrifice de Jésus-Christ et ne pas en rester à une connaissance intellectuelle. Pour prendre une image, cela n'a aucun sens d'acheter du pain pour le ranger dans un garde-manger. On n'en tire aucun bénéfice. Dans la scène, le Seigneur s'offre à nous. C'est pourquoi il assimile le pain à son corps et le vin à son sang. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, que je citais tout à l'heure, Jésus déclare « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, alors vous n'aurez point la vie en vous. » celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Alors, quelle signification donner à la scène aujourd'hui pour nous ? Eh bien, la scène, bien sûr, c'est un mémorial. Et le rôle d'un mémorial, c'est d'aider à se souvenir. Se souvenir pour ne pas être ingrat, pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs, pour ne pas revenir à notre condition première, celle d'un pécheur. Et nous savons bien que nous en avons tous besoin. Lorsque nous célébrons la scène, souvenons-nous que nous étions autrefois esclaves du péché, comme Israël était esclave en Égypte. Un peu plus loin que dans le texte que nous avons lu, dans Exode 13, verset 8, il est écrit « En ce jour-là, donc le jour où on célèbre la Pâque, vous expliquerez à vos enfants la signification de cette fête en disant « Tout cela, je le fais en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. » Lorsque nous célébrons la scène, nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous délivrer de notre péché et nous ramener à la vie. Et nous annonçons qu'il a promis de revenir nous prendre avec lui pour l'éternité. Souvenons-nous aussi de l'énormité du prix payé par Dieu pour racheter nos fautes. La vie de son Fils, son unique. La scène commémore le fait que Jésus a livré son corps et répandu son sang pour nous. Il est le signe visible de la grâce que le Seigneur nous a faite, une garantie de notre pardon et de notre rachat, comme l'agneau pascal avait assuré le rachat des premiers-nés d'Israël. Célébrer la scène, c'est aussi une occasion d'annoncer, de confesser. Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, la première, « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Lorsque nous célébrons la scène, nous annonçons le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Alors évidemment, il y a des questions qui peuvent se poser. À qui s'adresse la scène ? Qui peut y participer ? Paul déclare toujours dans la première épître aux Corinthiens, « Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Paul nous adresse donc une mise en garde, et plus particulièrement aux Corinthiens. Participer au repas du Seigneur, c'est prendre un engagement. Et cet engagement, il doit être sincère, honnête. On ne peut pas confesser le nom de Jésus et agir sciemment, volontairement, à l'opposé de ce que Jésus enseigne. Paul va même jusqu'à dire que c'est à cause de certains dérèglements lors de la célébration de la scène que certains membres de l'église de Corinthe sont tombés malades et que certains sont morts. Alors gardons-nous bien de généraliser, mais retenons l'avertissement. Ne soyons pas négligents lorsque nous prenons la scène. À l'inverse, il ne faut pas non plus nous abstenir de prendre la scène au prétexte que nous ne serions pas encore parfaits ou suffisamment avancés dans la sanctification. On pourrait remarquer que les apôtres n'étaient pas parfaits, que dans les heures qui ont suivi le premier repas de Pâques, eh bien, ils ont tous abandonné Jésus. Deux citations encore de Jules Marcel Nicole. Le repas auquel Jésus invite n'est pas pour les gens qui auraient lieu d'être satisfaits de leur vertu. Il est destiné aux pauvres, aux aveugles, aux estropiés. Il cite là l'évangile de Luc au chapitre 14, versets 21-23. Deuxième citation, cette fois-ci, il cite Jean Calvin. Alors j'ai dû retranscrire dans un français contemporain, j'espère ne pas avoir trop déformé la pensée de Calvin, où il dit « Si nous affirmons, pour ne pas participer à la scène, que nous sommes encore débiles en foi. » Alors débile, ça veut dire fragile, en fait. Donc si nous affirmons que nous sommes encore débiles en foi ou en intégrité de vie, c'est-à-dire si nous pensons que nous ne sommes pas des chrétiens achevés, que nous sommes encore parfaits, eh bien Calvin nous dit, c'est comme si un homme s'excusait de ne pas prendre de médicaments parce qu'il est malade. Et vous voyez bien l'absurdité de la situation. Jules Marcel Nicole conclut ainsi, paradoxalement, nous devons être convaincus de notre indignité naturelle pour communier dignement. Et si on reprend le texte de Paul dans l'Épître aux Corinthiens, on s'aperçoit qu'après avoir adressé sa mise en garde, eh bien, il continue en disant au verset 31 « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Et quelques versets plus haut, au verset 28, il disait « Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » La volonté de Dieu est claire. Il veut que nous participions à la scène, que nous répondions favorablement, à son invitation, et il nous invite donc à confesser nos fautes, à faire notre examen de conscience, dirions-nous aujourd'hui, afin d'être purifiés. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. 1 Jean 1, verset 9. Nous pouvons avoir la certitude que Dieu pardonne à celui qui se repent, et nous serons alors en état de participer dignement à la scène. Il ne nous est pas demandé d'être saints, mais d'aspirer sincèrement à le devenir. Dans cet examen de conscience, Jésus nous demande aussi de ne pas oublier de faire le point sur nos relations avec les autres. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, il nous dit de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, de nous repentir pour les torts que nous avons occasionnés à autrui. S'il arrivait que notre conscience nous mette en garde, nous rappelle que il y a un litige qui n'est pas réglé, une pensée qui ne nous honore pas ou qui n'honore pas Dieu, plutôt. Sachons alors nous abstenir de partenir à la scène, sans peur du regard des autres, parce que ce n'est pas facile quand on est dimanche après dimanche devant l'église, qu'on a l'habitude de participer à la scène, et puis un jour ou deux, ou plusieurs semaines quand on n'est pas bien, eh bien, on s'abstient. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais qui, je pense, est honnête et honoré par Dieu. Que dirais-je en conclusion ? Eh bien, je résumerai les différents points que nous avons vus. La scène est un repas auquel Jésus nous invite, comme il a invité les apôtres le soir du jeudi saint. Acceptons son invitation, car nous avons besoin de nous nourrir régulièrement. L'Eucharistie est aussi une action de grâce. Sachons être reconnaissants de ce que, malgré notre nature qui demeurera pécheresse tant que nous serons sur cette terre, Dieu ne nous rejette pas, mais il nous pardonne et nous invite à sa table. La scène est un moment de communion avec notre Seigneur, puisque nous lui redisons notre foi et notre reconnaissance, mais un temps de communion entre nous, puisque nous sommes unis autour du corps et du sang, symbolisés par le pain et le vin. La scène est un mémorial et une occasion d'annoncer la mort de Jésus et son retour. Et si nous sommes appelés à retenir la mise en garde de Paul, nous devons aussi retenir son exhortation à participer à la scène. Ne soyons ni négligents, ni plus exigeants que Dieu. Enfin, rappelons-nous que l'invitation de Jésus, elle est permanente, pressante, et qu'elle est assortie d'une promesse. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Je voudrais terminer cette prédication par un moment de prière. Seigneur, comment ne pas être touché par ce don magnifique que tu nous as fait. Merci Seigneur pour le don de ta vie, de ton corps, de ton sang qui nous sauve. Merci Seigneur parce que si nous nous sommes arrêtés à ta mort ce matin, nous savons aussi que tu es ressuscité, qu'aujourd'hui tu es vivant et que c'est cela qui fonde toute notre espérance en toi et en tes promesses. Amen.